Bienvenue dans Économie sans illusion, le podcast où l'on ne se contente pas d'analyser, mais où l'on démonte les idées reçues. Imaginez une économie où tout semble sous contrôle, où les indicateurs rassurent, mais où rien ne se transforme réellement. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui ne laisse pas indifférent. Un texte à la fois personnel, politique et profondément économique qui interroge ce que signifie vraiment gouverner une économie comme celle de la RDC.
On va déconstruire l'image de la gestion économique en RDC à travers le parcours de Malangu Kabedimbouyi. Ce n'est ni un réquisitoire ni un éloge, mais une autopsie intellectuelle sans concession. Et au-delà d'un cas individuel, c'est tout un système, ainsi que ses critères de sélection, que nous allons interroger.
Au menu, une exploration des limites d'une stabilité dépourvue de transformation, les effets parfois contraignants d'une expérience internationale sur la capacité d'innovation, et surtout, une interrogation fondamentale sur ce que la RDC attend réellement de ses dirigeants économiques.
On passera par l'autocritique proposée dans l'article publié ce week-end par Joe Emus. Sekimonio, par une mise en perspective comparative avec le Nigeria, par une analyse du rôle structurant du Fonds monétaire international et surtout par l'examen d'une question centrale. Pourquoi, dans le cas de la RDC, la stabilité ne saurait plus constituer un horizon suffisant?
Dans cette première partie, José Sekimonio installe un cadre particulier. Il ne commence pas par une critique directe de Malangu Kabedimbouyi, mais par une mise en cause de sa propre posture passée. Il reconnaît avoir été discret, voire insuffisamment critique, alors même qu'il percevait certaines limites.
Et cette reconnaissance introduit une tension dans le texte, celle entre lucidité analytique et retenue publique. Lorsqu'il évoque les critiques du camp d'André Wameso, il ne les rejette pas. Il admet qu'elles reposent en partie sur un constat réel, celui d'un silence relatif à un moment clé.
L'autre élément structurant de cette séquence, c'est la référence au Nigeria. Il décrit un moment de perturbation de son analyse, lié à sa collaboration avec Obi Ezekwesili dans le cadre des initiatives autour des filles de Chibok. Ce passage introduit une dimension non technique, presque politique, au sens large.
Et c'est précisément ce qui est intéressant. Cette expérience ne remet pas en cause son diagnostic initial, mais elle en diffère l'expression. Elle montre comment des engagements, des figures ou des contextes peuvent infléchir temporairement une lecture économique. Le retour à une analyse plus froide intervient ensuite et recentre le débat sur ce qui constitue le fil conducteur du texte, la question des capacités réelles de transformation économique.
Sekimonio commence par poser un cadre presque déroutant. Il reconnaît la solidité du parcours de Malangu Kabedimbouyi. Banque centrale, Fonds monétaire international, mission technique, publication, tout ce qui, dans l'ordre international, constitue une forme de légitimité.
C'est précisément ce qui rend la suite du raisonnement plus exigeante. La question n'est pas de savoir si cette trajectoire est crédible, mais ce qu'elle rend possible. Ce type de formation installe une manière de penser l'économie, centrée sur l'équilibre, la correction, la stabilisation, une logique qui sécurise mais qui ne projette pas nécessairement.
Le texte introduit alors une idée forte, celle d'une économie de diagnostic, une capacité à lire les déséquilibres avec précision, à nommer les contraintes, à ajuster les paramètres, mais sans déplacement réel des structures. Et dans le cas de la RDC, cette fonction est presque saturée.
Ce qui se dessine en creux, c'est un manque d'autre chose, non pas comprendre davantage, mais transformer différemment. Produire, organiser, structurer, en somme, faire basculer l'économie d'un état à un autre. Et c'est dans cet écart entre compréhension et transformation que le texte situe sa critique la plus fondamentale.
Sekimonio déplace le regard vers quelque chose de plus structurant. Il ne parle plus seulement du parcours, mais de ce que produit une longue immersion au Fonds monétaire international. 32 ans dans une institution comme celle-là ne sont pas neutres. Cela façonne une manière de voir le monde, de définir les priorités et surtout de hiérarchiser les risques. Ça façonne un mode de pensée centré sur le contrôle, inflation, dette, discipline.
Ce qui se dessine ici, c'est une école de pensée très cohérente. Discipline budgétaire, contrôle de l'inflation, soutenabilité de la dette, crédibilité monétaire, tout est orienté vers la maîtrise des déséquilibres. Cette architecture est robuste, elle protège contre les crises, elle stabilise les systèmes fragiles, mais elle reste fondamentalement défensive. Elle organise ce qui existe déjà, sans nécessairement ouvrir un espace pour ce qui pourrait émerger.
C'est là que le texte introduit une distinction importante et frappe fort. Ces outils répondent à une question précise. Comment stabiliser une économie dans un environnement contraint? Mais la RDC se situe ailleurs. La question n'est plus seulement de stabiliser, mais de créer.
Créer une base productive, structurer des chaînes de valeur, transformer localement les ressources, cela suppose autre chose que des ajustements. Cela implique des choix, une direction, une volonté de déplacer les équilibres existants. Et dans ce cadre, le texte suggère que cette formation, aussi rigoureuse soit-elle, tend à produire une technocratie de la stabilisation efficace pour tenir le système, mais insuffisante pour en modifier la trajectoire.
Séquimonio affine encore sa critique. Il décrit une succession de missions, consultation article 4, assistance technique, accompagnement de pays tiers, des interventions encadrées, avec des objectifs précis, mais aussi des temporalités limitées.
Ce que cela révèle, c'est une expertise d'accompagnement, une capacité à analyser, à recommander, à ajuster des politiques déjà en place. C'est une approche rigoureuse, structurée, mais qui reste en périphérie des mécanismes profonds de construction économique.
La distinction devient essentielle. Accompagner une économie ne signifie pas la construire. Construire suppose autre chose, une vision industrielle, des arbitrages politiques, une stratégie d'accumulation interne.
Ce que le texte met en lumière, c'est une absence de passage entre deux niveaux, celui de l'analyse très maîtrisée et celui de l'architecture économique beaucoup plus exigeant. Entre les deux, il ne s'agit pas d'un simple écart de degré, mais d'une différence de nature. Kabedi est du monde de la stabilisation, la RDC a besoin de bâtisseurs.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est la partie sur les ressources. On parle de transparence, de diversification, de bonnes pratiques. Mais Séquimonio tranche, ça ne suffit pas.
Parce qu'au fond, la vraie question, c'est où se crée la valeur. Le silence sur ce point est assourdissant. On gère les ressources, mais on ne construit pas la chaîne de valeur qui enrichirait vraiment le pays.
C'est un angle souvent oublié dans les débats économiques. On fait de la gestion, mais pas d'architecture. On accompagne le mouvement, mais on ne donne pas la direction.
C'est exactement ça. Accompagner, mais ne pas bâtir. Pour la RDC, c'est dramatique de s'arrêter là.
Le passage sur l'économétrie est piquant. Séquimonio prend le contre-pied du discours habituel. Modèles, données, inférences, tout ça donne une impression de rigueur scientifique.
Mais la rigueur ne suffit pas, dit-il. Elle encadre, mais elle ne choisit pas la direction. Les modèles ne remplacent pas une vraie volonté politique ou une vision stratégique.
Et au final, il résume tout. Une économie ne se transforme pas dans les tableaux Excel, mais par des choix courageux. Et ce sont des choix politiques, avant tout.
C'est là que Kabedi, selon Séquimonio, échoue, pas par manque de compétences, mais parce qu'elle ne porte pas de vision transformationnelle.
Ce que j'ai trouvé fort, c'est que Séquimonio élargit la critique. Il dit « ce n'est pas Kabedi la cible, c'est la méthode. Il faut savoir lire un parcours, questionner les titres, aller au-delà du CV impressionnant. »
C'est une vraie leçon d'humilité. On a tendance à se laisser séduire par les décorations, alors que l'enjeu, c'est la capacité à transformer, pas simplement à maintenir l'ordre.
Il introduit aussi la question monétaire, création endogène, réforme moderne. Selon lui, la RDC a besoin d'un réformateur qui imagine, pas d'un gestionnaire qui s'adapte.
Ce qui pose finalement la question du système dans son ensemble. Les talents existent, mais le processus de sélection et la structure de pouvoir freinent tout changement de fond.
Alors, on retient trois choses. D'abord, la stabilité peut rassurer, mais elle ne construit rien sur le long terme. Deuxième point, l'expérience internationale ne garantit pas une capacité à transformer.
Et enfin, la vraie question, c'est de savoir reconnaître et choisir des leaders qui osent le changement, pas seulement ceux qui maîtrisent la gestion de crise.
Pour agir concrètement, il faudrait commencer par analyser nos critères de sélection. Est-ce qu'on cherche des bâtisseurs ou juste des gardiens de la stabilité?
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Économie sans illusion. Posez-vous la question, applaudissez-vous la stabilité ou réclamez-vous la transformation? À bientôt.